Il est 7h, bon réveil.
Pour moi, c'est impressionnant cette performance de nous contre une équipe comme Marseille. C'était exceptionnel.
A-t-on vraiment vu le même match ? Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, salue la performance de ses joueurs et pourtant ils ont perdu 1-0 contre Marseille. 3 ont été expulsés. Des files d'attente sans fin devant les labos d'analyse pour les tests PCR, attente encore pour les résultats. C'est notamment à cause du manque de produits réactifs, comme on vous l'expliquera dans un instant. Un sommet virtuel aujourd'hui entre l'Union européenne et la Chine. L'Union veut notamment une concurrence équitable pour ses entreprises qui travaillent en Chine. Dans ce journal, nous retrouverons aussi l'envoyé spécial d'Europe 1 sur l'île de Lesbos, où de nombreux migrants refusent de s'installer sur le nouveau camp, installé à la hâte pour remplacer celui qui a brûlé.
Moi et ma famille, je préfère mourir à l'extérieur. C'est un centre fermé, fermé comme en prison. Ils ne sont pas des criminels. Si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sortie.
Et puis les jeux vidéo, ça peut aussi être bon pour la scolarité de nos enfants. Le célèbre Minecraft existe aussi en version éducative. Et depuis le confinement, il a encore plus de succès dans les classes où ce sont les profs qui l'utilisent.
Juste après ce journal, l'OPEP a 60 ans. Nicolas Barré nous dira que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'a jamais eu aussi peu d'influence. L'éclairage éco à 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet, un classique PSGOM tout en tension qui a rappelé de mauvais souvenirs à Virginie Fulpin. L'édito sport à 7h20 avant notre rendez-vous d'histoire, Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe Matin. Il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et oui, un classico sous très haute tension. Hier soir au Parc des Princes, devant quelques 3800 spectateurs, le PSG s'est incliné face à Marseille.
1-0, but de Florian Thauvin. Cela faisait 9 ans que l'OM n'avait pas battu Paris. Mais un match marqué par les cartons distribués à l'appel.
14 jaunes et même 5 rouges en toute fin de match pour une bagarre. 3 Parisiens exclus, dont Neymar qui accuse le Marseillais Gomez d'insultes racistes. En tout cas, Julien Froment, même de l'avis de ses supporters, le PSG a complètement raté sa soirée.
C'est pas beau, c'est pas un match de foot.
Ce supporter parisien a de quoi être dépité. Absent dans le jeu, incapable de garder ses nerfs avec 3 cartons rouges, le Paris Saint-Germain a perdu pour la première fois à domicile contre son rival marseillais sous l'air qatari. Une première qui passe mal.
Cassé, ils ont pas fait 3 passes, on les a pas vus. Hein. C'est pas mérité, après ils chambrent, ils ont rien prouvé, ils ont rien montré.
Bah dégoûté, ouais. Ils viennent ici, ils finissent la série, ça fait mal. Hein.
Pour d'autres, la soirée a été plus douce. C'est le cas de ce supporter marseillais infiltré au parc.
C'est immense. C'est une fierté, je vais pas crier au toit, mais voilà, franchement c'était unique. Il y a toujours l'étoile qui brille.
Des Parisiens anéantis, des Marseillais tout en joie et un coach du PSG, Thomas Tuchel, dans le déni complet.
Pour moi c'est impressionnant cette performance de nous contre une équipe comme Marseille. Contrôler le match dans toutes les minutes, c'était exceptionnel. Mais maintenant c'est le défi de séparer cette performance et les résultats.
2 défaites lors des 2 premiers matchs, 34 ans que ce n'était plus arrivé au PSG, 18e ce matin de Ligue 1 et qui après avoir tutoyé les sommets européens est désormais plongé dans une improbable crise.
Et oui, le PSG 18e. Et pendant ce temps-là, du côté de Marseille, explosion de joie hier soir au pied du Vélodrome sur le Vieux-Port avec fumigène et concert de klaxons.
Prendre son mal en patience. Pas d'autre solution si vous voulez vous faire tester. Dans toute la France, il faut affronter les files d'attente devant les labos.
Et ensuite, n'être pas trop pressé pour recevoir les résultats. Ils peuvent prendre jusqu'à 14 jours. Voilà l'une des explications que nous donne Marion Gauthier ce matin. Les réactifs, ces substances chimiques qui permettent d'analyser les prélèvements, commencent à manquer.
À la recherche d'un laboratoire pour demander un test PCR.
Nous, en fait, il faut compter au moins 6 jours. Il y a trop de demandes, donc du coup, ça bouchonne. Hein.
Environ 20% de tests en plus. Chaque semaine, les commandes de réactifs ont du mal à suivre, note François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes.
À chaque fois qu'on est arrivé à rendre dans des délais raisonnables, à chaque fois, on monte la barre. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai que ça coince. Une entreprise industrielle, elle ne s'adapte pas avec 3 fois plus de commandes. On l'a bien vu pour la production de masques en France, le temps que ça a demandé.
Les délais de livraison de réactifs s'allongent eux aussi car les fournisseurs sont sollicités par tous les pays du monde. Résultat, en France, des tests sont jetés sans avoir pu être traités dans les temps. Les patients ne sont pas isolés et la contamination progresse, souligne le docteur Bertrand Legrand, généraliste à Tourcoing.
Si on veut pouvoir prévenir les personnes contaminées par la personne que l'on teste, il faut bien que le résultat soit rendu avant que ces personnes n'aient contaminé tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien, à part à compter les malades.
Trop de tests inutiles, des réactifs gâché, fulmine Bertrand Legrand. Beaucoup de médecins généralistes demandent que les tests soient effectués uniquement sur prescription.
Marion Gauthier. Les préfets de Marseille, Bordeaux et Guadeloupe promettent aujourd'hui leur proposition à Jean Castex pour éviter la propagation du Covid. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, réclame la fermeture des plages et des parcs à 20h ainsi que l'interdiction des fêtes de mariage.
Dans les établissements scolaires, on accorde un soin particulier à la désinfection des locaux. Depuis la rentrée, le département du Loir-et-Cher teste un aérosol connecté.
Clean Air Whiz, c'est son nom, est une innovation française qui cartonne. Créée par des tourangeaux pendant le confinement, ce produit est utilisé dans 26 collèges pour désinfecter les salles de cours chaque semaine. Jean-Gabriel Bourgeois a assisté à une démonstration à Bracieux.
Une simple pression sur l'aérosol posé sur une table au milieu de la pièce et c'est automatique. Le désinfectant est pulvérisé dans tous les recoins de la salle de classe avec un plus, un QR code sur le flacon. Christophe Joly est le co-inventeur de Clean Air Whiz.
Une personne qui rentrera dans cette pièce pourra avec son appareil photo scanner le QR code pour obtenir le fameux certificat qui lui dira que la pièce a été nettoyée correctement.
Une désinfection hebdomadaire qui vient s'ajouter au nettoyage quotidien des classes. Cette innovation permet aussi de tranquilliser parents et élèves. Nicolas Perruchot préside le conseil départemental du Loir-et-Cher.
Notre rôle à nous, je crois, c'est d'essayer de mettre en place autour d'eux des dispositifs qui permettent de les rassurer complètement et d'éviter la propagation du virus au sein des classes de collège.
Mais il ne faut pas oublier l'humain, nuance le principal du collège, Sébastien Montanari.
Je pense que le fait d'être rassuré ne tient pas forcément à un QR code, mais il est souhaitable qu'on maintienne des liens construits d'abord sur la confiance plutôt qu'un rendu compte permanent dans chaque salle de chaque nettoyage.
Cet aérosol connecté est testé ici jusqu'à la Toussaint. Bracieux, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et puis c'est aujourd'hui le coup d'envoi des évaluations pour les élèves de CP, CE1, 6e et 2e, des tests en français et en maths. On va en parler dans le journal de 7h30.
7h07 sur Europe 1. La rencontre Europe-Chine devait être l'un des grands moments de la présidence allemande de l'Union européenne. Le rendez-vous était prévu à Leipzig entre les 27 et le président chinois. Mais Covid oblige, il s'est transformé en réunion virtuelle.
Oui, avec format réduit. Il s'agit notamment d'avancer dans les négociations sur les investissements et le commerce, malgré les tensions de ces derniers mois. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les Européens veulent instaurer un vrai rapport de force avec la Chine.
Oui, et ils voient donc un encouragement dans ce deuxième sommet si proche du précédent. D'autant plus que c'est Xi Jinping, l'homme qui décide à Pékin, qui y participe, et pas son Premier ministre. Les Européens martèlent qu'ils ne veulent plus être naïfs par rapport à la Chine. Au sommet de juin, ils avaient d'ailleurs critiqué la situation à Hong Kong et évoqué les cyberattaques chinoises. Cette fois, ils visent des concessions sur le fond des dossiers. Ce matin, les deux parties signeront un accord sur la reconnaissance des indications géographiques. Le Roquefort, le Beaujolais ou le vinaigre balsamique ne pourront plus être copiés en Chine. Ça veut dire que Pékin a accepté le modèle européen dans ce domaine, se réjouit un diplomate. Mais le gros morceau reste la négociation de l'accord sur les investissements. Il doit permettre aux entreprises européennes de travailler dans des conditions de concurrence moins déloyales en Chine. Ça reste très dur. Ça va prendre encore beaucoup de temps, reconnaît un proche du dossier. Enfin, c'est important. Bruxelles espère aussi convaincre Pékin d'accepter une rencontre en face à face sur les droits de l'homme d'ici la fin de l'année.
Isabelle Horry à Bruxelles. 5 jours après les incendies qui ont ravagé le camp de réfugiés de Lesbos en Grèce, 12 000 personnes, 4 000 enfants se retrouvent à dormir dehors, souvent sans manger, sans soins médicaux.
Le gouvernement grec, qui a déjà demandé l'aide de l'Union européenne, a installé un camp provisoire pour les accueillir, mais c'est une solution qui ne satisfait personne, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1, Hélène Terzian.
Une ancienne base militaire au bord de la mer, entourée de barbelés. Ici, pas de cabane de fortune, mais des centaines de tentes blanches alignées et des soldats qui veillent au grain. Les réfugiés ne se bousculent pas pour s'y installer. C'est même hors de question pour le Congolais Dadi.
Moi et ma famille, je préfère mourir à l'extérieur. C'est un centre fermé, fermé comme en prison. Nous ne sommes pas des criminels. Si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sortie.
Pour les milliers de réfugiés toujours entassés sur la route, la promesse de vivre dans des conditions plus dignes ne les fera pas changer d'avis. L'Afghane Samira implore qu'on la laisse quitter cette île.
Ce sera pareil qu'avant. Je ne suis pas venue ici pour rester en Grèce. Je veux aller en Allemagne. J'ai de la famille là-bas. Je veux juste ma liberté. Être libre, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir.
Depuis le port de plaisance voisin, les habitants scrutent impuissants le déplacement des réfugiés vers ce nouveau camp qui ne changera rien. Regrette Anna.
Ce n'est pas la solution. Construire un camp, ça n'a pas marché. Les réfugiés veulent partir, trouver un travail, une maison. Et nous, nous voulons être en sécurité, retrouver notre vie d'avant. C'est dangereux des deux côtés.
Les migrants ont brûlé l'ancien camp, affirme-t-elle. Ils feront sans doute pareil dans le nouveau. Sur l'île de Lesbos et l'Interzian Europe 1.
En général, école et jeux vidéo ne font pas vraiment bon ménage. Et pourtant, depuis la rentrée, certains enfants utilisent Minecraft pendant la classe.
Oui, Minecraft, c'est 120 millions de joueurs dans le monde, l'un des jeux vidéo les plus populaires qui permet de tout construire grâce à des cubes. Il en existe maintenant une version éducative qui a encore plus de succès depuis le confinement. Clément Le Saffre.
Minecraft, c'est un jeu bac à sable, autrement dit un jeu où l'on peut tout faire et surtout tout construire. La version éducative exploite ses possibilités infinies pour illustrer le programme scolaire. David Plumel est professeur de techno dans la Nièvre, il utilise Minecraft avec ses élèves de 5e pour une initiation à l'architecture.
Dans Minecraft, en l'espace d'une heure de temps, les élèves sont capables de construire une maison. On n'en fera pas tous des architectes, mais au moins qu'ils aient une petite notion de ce que c'est qu'une maison, ce que c'est qu'une pièce, une surface, qu'est-ce que ça représente 10 mètres carrés, qu'est-ce que ça représente 100 mètres carrés. Donc ça permet déjà de se projeter plus facilement.
Et tout est envisageable dans Minecraft. Les ingénieurs de la NASA y ont ainsi reproduit la Station Spatiale Internationale. Et depuis le confinement, le nombre de connexions à Minecraft Education a augmenté de 50%. Dirdre Quarnstrom est responsable des contenus éducatifs.
La pandémie nous a appris que Minecraft s'adapte aussi bien à une classe qu'à l'école à la maison. Je pense que ce genre d'outil numérique, à la fois amusant et participatif, est très intéressant au vu des transformations actuelles de l'éducation.
Avec 2,6 millions de contenus téléchargés depuis mars, la France a connu un net regain d'intérêt pour Minecraft Education, même si l'on est encore loin de pays comme l'Australie ou la Suède, où Minecraft est inclus dans les programmes scolaires.
Et puis un mot de tennis, l'Autrichien Dominic Thiem remporte l'US Open, premier titre du Grand Chelem, victoire contre l'Allemand Zverev.
Merci beaucoup Hélène Zelani.
Europe 1, Mathieu Béliard.